Mes chers amis, voici un article que l'on pourrait intituler « Question pour aujourd'hui ». Depuis l'année terrible 1968, qui lança de nombreux slogans destructeurs comme « Ni Dieu ni maître » ou bien « Il est interdit d'interdire », notre monde occidental s'est peu à peu détruit en accumulant des détresses psychologiques dramatiques dont beaucoup vont jusqu'au suicide. Or, actuellement, de plus en plus de gens sensés, quel que soit leur milieu et leur culture, parlent de tradition, sans d'ailleurs trop savoir de quoi il est question. En ce qui concerne les chrétiens, très nombreux, à avoir été profondément blessés, la véritable tradition catholique, celle qui n'a pas été édulcorée, voire déviée par ce que j'appelle le faux concile, renvoie toujours aux vertus, aux valeurs familiales, aux valeurs spirituelles, en un mot à la morale, curieux mot que l'on a chassé et remplacé par un autre, l'éthique, dont beaucoup de personnes ne comprennent pas complètement le sens. La véritable tradition catholique, celle qui est tout entière contenue dans le Saint-Évangile et qui devrait être prêchée par tous les évêques du monde, la véritable tradition catholique rend l'homme équilibré, et cet équilibre chrétien conduit au bonheur. Tout ce qui précède est d'ailleurs exposé dans la deuxième lettre de Saint Pierre. En particulier, nous pouvons lire « Le Seigneur peut donc délivrer de l'épreuve ceux qui pratiquent la piété, mais les injustes, il les garde pour le jour du jugement afin de les punir. Ceux-là surtout qui, par convoitise impure, suivent les inclinations de la chair et dédaignent la seigneurie de Dieu. » Injustes, présomptueux, arrogants, ils outragent sans trembler les anges appelés gloire, alors que d'autres anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre ceux-ci un jugement outrageant de la part du Seigneur. Ces gens-là sont semblables à des animaux stupides, destinés par leur nature à être pris et à périr. Ils se répandent en injures contre ceux qu'ils ignorent, et ils périront aussi par leur propre corruption. Ce sera le salaire de leur iniquité. Leur félicité est de passer chaque jour dans les délices. Ils ne sont que tâches et que honte. Ils se font un plaisir de vous tromper en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils prennent à leur amorce les âmes inconstantes. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de sa désobéissance. Une bête de somme, muette, faisant entendre une voix humaine, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon. La profondeur des ténèbres leur est réservée. Avec leurs théories oiseuses et vides, ils attirent dans les convoitises de la chair, dans le libertinage, ceux qui s'étaient à peine retirés des hommes nourris dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. Car si ceux qui, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'étaient retirés de la corruption du monde, se laissent vaincre en s'y engageant de nouveau, leur dernier état devient pire que le premier. En effet, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de retourner en arrière, après l'avoir connue, en abandonnant la loi sainte qui leur avait été enseignée. Ce texte est extrait de la deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 2, versets 9 à 22. Ce texte est très peu connu. Il est d'une étrange actualité. Saint Pierre énonce des vérités authentiques, révélées, mais que les hommes de toutes les époques se sont efforcés d'oublier. De nos jours, nous avons eu un concile Vatican II, dont de nombreux textes parlent de la tradition. Pourquoi avons-nous massacré ce concile ? Nous devons revenir à la morale chrétienne, donc à la loi qui conduit à Dieu et donne la vie qui ne finira pas. Si nous ne revenons pas à la vraie tradition chrétienne et au bon sens, ce sera la mort. En effet, à quoi sert la vie si elle doit se terminer définitivement? Si la vie n'est qu'une fragile ouverture sur une petite lumière fugitive, toujours prête à s'éteindre, à quoi bon la vivre? Même avec les progrès de la science moderne, ou peut-être à cause d'eux, Il nous est impossible d'imaginer la mort totale, définitive, car nous serions situés face à un désespoir total, un vide atroce. Certes, la souffrance existe, et notre monde contemporain est pour beaucoup de vrais chrétiens une terrible souffrance spirituelle. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, veut peut-être nous faire connaître, voire expérimenter, la souffrance spirituelle qui fut la sienne à Gethsémani, et ainsi fortifier notre foi et nous faire découvrir la grandeur de la loi de Dieu et des béatitudes. La loi de Dieu repose entièrement sur « tu aimeras ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Or, aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains nient Dieu. C'est insensé. Nous devons donc approfondir et élargir nos raisonnements humains. Dieu existe, même si nous ne le voyons pas, car Dieu est partout, en tout, et l'homme est son œuvre. Or, cette œuvre était et reste parfaite, car, entre autres spécificités, l'homme est véritablement la synthèse de la matière et de l'esprit. Mais la matière étant très complexe, cette synthèse esprit-matière est difficilement exprimable. Cependant, si certaines hypothèses scientifiques récentes se confirment, alors l'expression de ces choses sera plus aisée. Mais nous serons toujours devant le mystère de l'esprit et devant le mystère de l'homme qui, librement, refuse Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer Dieu, car lui seul est. L'Écriture nous présente toujours Dieu d'une manière humaine, ce qui est normal, car nous ne sommes que ses créatures. Et de plus, des créatures à qui il a confié une loi, c'est-à-dire un mode d'emploi, celui de la vie et de la vie heureuse avec lui. Alors pourquoi refuser cette loi? Pourquoi le péché? Pourtant, Dieu qui est tout et qui gouverne tout, aime les hommes, ces créatures étonnantes, capables d'aimer, de se reproduire et de l'aimer, lui, Dieu le Créateur. De plus, nous ne devons pas oublier les esprits purs que sont les anges. Mais que et qui sont-ils ces anges? Ne sont-ils que des expressions, des mots que Dieu emploie pour nous enseigner? Ou sont-ils comme des rayons de Dieu, libres eux aussi, et capables d'aimer et de nous éclairer? Sont-ils donc, comme nous le croyons, des êtres spirituels, indépendants et aimants? Mais alors, pourquoi Satan? Et qu'est-il? Que de questions naissent dans les intelligences humaines? En réalité, les hommes ne peuvent exprimer et comprendre ces réalités que d'une manière humaine. Il est donc normal qu'ils ne comprennent pas ce qui n'est pas humain. À moins que Dieu veuille, ainsi, nous rendre humbles selon sa vérité et ses désirs. Sur la terre, nous les hommes, nous sommes totalement dépendants et mortels. Seule la loi de Dieu peut nous donner la vie éternelle, car la loi de Dieu nous conduit à l'union à Dieu, donc à devenir des dieux selon les termes du Seigneur dans un psaume et rappelé par Jésus, « J'ai dit, vous êtes des dieux ». Mais nous ne pouvons devenir des dieux qu'en Dieu et pour Dieu, selon son mode à lui, c'est-à-dire sa loi. C'est la loi de Dieu qui nous fait vivre, qui nous rend immortels. Sans la loi, les hommes sont brisés et se perdent. Avec la loi, c'est la vie, le bonheur, l'éternité, car la loi de Dieu, c'est le bonheur. Il nous faut donc revenir à la loi de Dieu. Réfléchir, c'est indispensable. C'est même vital lorsque nos réflexions nous ouvrent sur la réalité. Or, que constatons-nous aujourd'hui dans un monde qui a chassé Dieu et sa loi? Partout, nous faisons le même constat. Nos églises se vident, les mosquées se remplissent, les jeunes se convertissent à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent Dieu que nous ne leur donnons plus. L'insécurité règne partout. Beaucoup de gens ont des craintes pour l'avenir. On ne croit plus en Dieu parce qu'on ne le connaît plus. Nous devons redonner Dieu à nos enfants et à ceux qui le cherchent. Depuis de très longues années, beaucoup de personnes se moquent des mystiques. Mais qu'est-ce qu'un mystique? D'une manière générale, et comme on le pense trop souvent, un mystique, ce n'est pas quelqu'un qui a des visions. Un mystique, c'est un homme ou une femme qui est uni à Dieu et soumis librement à la loi de Dieu, le mode d'emploi de la vie. Dieu veut que nous l'aimions et que nous aimions nos frères. Tous les saints furent des mystiques, chacun à sa façon et comme le Seigneur le désirait. Les saints furent tous des gens particulièrement équilibrés, qui pensaient à Dieu constamment, ce qui ne les empêchait pas de travailler beaucoup. Ils pratiquaient le sacrifice et l'ascèse qui forment et construisent des hommes solides. Le sacrifice n'est pas du masochisme, c'est au contraire un effort qui aide à la formation des hommes forts. Et les saints ont tous été des forts, et des forts qui priaient beaucoup, car ils connaissaient Dieu. Et si c'était eux les saints, donc les mystiques, qui étaient dans le vrai? Sainte Thérèse de Lisieux a écrit « Je suis venue au Carmel pour sauver les âmes et surtout pour prier pour les prêtres. » Question, est-il donc si difficile d'être un saint prêtre? Pendant de longues années, les chrétiens de la base eurent dans leurs prêtres une immense confiance. Comment aurait-il pu en être autrement? D'ailleurs, même dans les familles athées, régnait, au moins en apparence, une morale très stricte. Alors les prêtres et les religieuses ne pouvaient être que des saints. Malheureusement, il y eut l'application erronée du Concile Vatican II. Quelques personnes comprirent que certains responsables, surtout dans l'Église de France, se trompaient, mais elles furent peu écoutées. Aujourd'hui, le constat est désastreux et personne n'aurait pu imaginer les horreurs devant lesquelles nous sommes actuellement placés. Heureusement, l'Église prend conscience du désastre et nos papes le disent ouvertement. Il faut absolument revenir à la vraie tradition de l'Église, celle qui est présentée notamment dans le décret Dei Verbum du Concile Vatican II. Cela prendra du temps, mais la loi de Dieu revivra. Jésus sera victorieux. C'est notre espérance, n'est-ce pas ?